Que le nom du Seigneur soit béni. Le Seigneur est là, selon sa promesse, là où deux ou trois sont assemblés. En mon nom, je suis au milieu d'eux. N'a-t-il pas dit cela?
Amen.
Est-ce qu'il dit la vérité?
Amen.
Amen. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Ainsi, nous sommes ici uniquement pour glorifier le Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous ne devons pas regarder à l'homme ou à qui que ce soit, nous devons regarder au Seigneur, car sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons écouter la parole de Dieu, et après cela, nous prendrons du temps pour adresser un appel à ceux qui devront se convertir. Et pour les malades aussi, nous prierons. Savez-vous que le plus grand des miracles n'est pas la guérison d'un corps. Le plus grand des miracles est la guérison de l'âme, le pardon des péchés. Ça, c'est le plus grand des miracles. Vous pouvez aller au ciel avec un corps malade, mais vous n'irez jamais au ciel avec une âme malade qui n'est pas purifiée par le sang de Jésus. Ça, c'est très important, mes amis, très important. L'état de ton âme, c'est ce qui est le plus important. Il vaut mieux que tu meurs malade et que tu ailles au ciel, que tu meurs en bonne santé et que tu ailles en enfer. Ceci est très important. C'est pourquoi avant de prêcher, Jésus prenait beaucoup de temps pour enseigner tous ceux qui étaient devant lui. Et c'est pourquoi nous devons écouter avec attention la parole de Dieu. Cette parole n'est pas la mienne, mais elle est la parole du Seigneur. Et nous allons voir cet après-midi un aspect du ministère de Paul et voir tout spécialement la vision céleste de l'apôtre Paul. À un moment donné, dans les Actes des Apôtres, l'apôtre dit « Je n'ai pas résisté à la vision céleste. » Et j'aimerais vous donner quatre points importants sur cette vision, quatre visions de cette vision céleste. Nous allons donc voir quatre vérités importantes concernant cette vision qui a complètement bouleversé l'apôtre Paul. Amen. D'un Saul de Tarse, Dieu en a fait un apôtre Paul qui a sillonné le monde d'alors et qui a mené des multitudes d'âmes au Seigneur. La vision céleste de l'apôtre Paul, c'est quelque chose qui l'a profondément marqué, qui l'a bouleversé. Puisse ce bouleversement qui a été le sien être aussi le nôtre, car tout cela était basé sur le Seigneur et sa parole. J'aimerais donc qu'on lise, si vous le voulez bien, dans Actes 26. Actes 26. On peut lire au verset 9 déjà, on ne va pas tout lire, mais en quelques versets déjà, pour voir dans quel esprit l'apôtre Paul se trouvait avant qu'il rencontre le Seigneur. Acte 26, verset 9, « Pour moi, dit-il, j'ai cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints. » Ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés, donc il parle des chrétiens, n'est-ce pas? Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait, en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux et qu'ils passent pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré de voir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Je ne suis point fou, très excellent Festus, répliqua Paul, ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont à passer. Crois-tu au prophète, roi Agrippa ? Je crois, je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Paul répondit, « Que ce soit bientôt, que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception de mes liens. » Amen. Amen. Quelle parole, quel témoignage, quel témoignage de la grâce de Dieu. C'est parce qu'il avait une vision céleste. Je n'ai point résisté à cette vision céleste. Il savait de quoi il parlait. Que ce soit devant les rois ou les empereurs, l'apôtre Paul a fidèlement annoncé le message de l'Évangile. Amen. Et c'est pourquoi parfois, on le prenait pour un fou. Tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. Et il a dit, non, 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 je ne suis pas fou. Ce sont des paroles pleines de bon sens que j'annonce. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul annonçait le merveilleux évangile. Il en faudrait plus de fous comme Paul dans ce monde, et le monde serait beaucoup plus sage. Amen. Il en faudrait beaucoup plus des esclaves de Jésus-Christ comme Paul. Et le monde serait beaucoup plus libre. Alléluia. Il en faudrait beaucoup plus d'hommes qui aiment le Seigneur Jésus comme lui. Et il y aurait moins de haine dans ce monde. Je n'ai point résisté à la vision céleste. C'est quelque chose qui l'a profondément touché. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette vision? Dans ce passage-là et dans les autres épîtres, il nous parle un peu de ce qui s'est passé. Et j'aimerais vous donner quatre visions essentielles de cette vision céleste de Paul. La première vision que Paul a eue, c'était une vision de lui-même. Voilà la première vision, une vision de lui-même. Et c'est ce qu'il dit dans 1 Timothée, chapitre 3, chapitre 1 et verset 13. Voici ce qu'il dit. 1 Timothée 1,13 « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a abondé, a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle, au roi des rois, immortel. Invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Quelle révélation! La première vision que nous devons toujours avoir lorsque Dieu touche nos cœurs, c'est la vision de ce que nous sommes en réalité. J'étais un homme auparavant blasphémateur, persécuteur et un homme violent. Voilà la vision qu'il a eue de lui-même. Alors qu'il était un pharisien et il se considérait comme le plus juste de tous les hommes. C'était un propre juste. Et vous savez, pour convaincre un propre juste de ce qu'il est pécheur, de ce que aux yeux de Dieu, il est un rebelle et il est condamné aux yeux de Dieu. C'est très difficile, vous êtes d'accord avec moi? C'est une des choses les plus importantes, les plus difficiles à réaliser pour une personne. L'état de son cœur tel qu'il est devant Dieu. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Je suis persuadé que Paul ne savait pas réellement qui il était avant cette vision céleste. Parce qu'au contraire, dans tout ce que nous lisons de lui, il se justifiait. Il se considérait comme quelqu'un irréprochable selon la loi. Mais lorsque Jésus-Christ s'est révélé à lui, tout a changé. Amen. Blasphémateur, un homme violent, persécuteur. Il respirait la menace et le meurtre. Vous rendez compte? Ce que Paul était avant sa conversion. On ne s'en rend pas assez compte de cela. Quand on lit les épîtres de Paul, on pense qu'il a été quelqu'un de très bien toute sa vie. Détrompez-vous. Si Dieu a tant utilisé l'apôtre Paul, c'est parce que l'apôtre Paul a réalisé combien il était un grand pécheur aux yeux de Dieu. Parce qu'il a réalisé combien il était un grand pécheur, Dieu a fait de lui un grand apôtre. Alléluia! Voilà pourquoi Dieu a fait de lui un grand apôtre. Parce qu'il a réalisé combien il était pécheur. Et il se nomme même le premier des pécheurs. C'est une parole certaine et digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Quel brisement! Quelle vision de lui-même, le premier des pécheurs. Et un pécheur, c'est quelqu'un qui est perdu, selon la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui est séparé de Dieu. C'est quelqu'un qui ne peut se sauver lui-même. C'est quelqu'un qui est souillé par le péché et qui mérite la juste condamnation de Dieu. Mais voilà que cette révélation, cette vision, quand il a vu le Seigneur, cette lumière éclatante, plus lumineuse que le soleil, a pénétré son cœur et il s'est vu en un instant tel qu'il était. La puissance de Dieu l'a jeté par terre. Et là, en un instant, il a eu la vision de ce qu'il était. Persécuteur, pécheur, rebelle, résistant à Dieu, persécutant les vrais chrétiens. Voilà la première vision que nous devons avoir de nous-mêmes. Lorsque nous avons une véritable vision de Jésus-Christ. Amen. Il y en a beaucoup aujourd'hui, un peu de partout, quand je vais à gauche, à droite, on entend beaucoup de choses. Il y en a qui ont soi-disant des visions de Jésus. Et ils vivent dans le péché. Ils pratiquent l'idolâtrie. Et ils ont des visions de Jésus. Je me demande quel Jésus ? Ils ne sont pas convaincus de péché. Ce sont des gens religieux, comme l'apôtre Paul. Ah, ils sont religieux pour ça. Et même plus ils ont cette division de Jésus comme cela, plus ils sont attachés à leur religion. Et plus ils deviennent propres justes. Bon, d'accord, plus personne ne peut parler à ces gens-là. Quand ils vous disent, moi j'ai une vision de Jésus, comme pour dire, là. Moi, je suis quelqu'un. Si j'ai une vision, c'est parce que je suis quelqu'un de bien. Toi, t'en as pas eu ? Tu vois rien du tout. T'en as pas eu ? Mais oh là là, il y a quelque chose qui va pas avec toi. Quelque chose qui va pas. Qu'est-ce que c'est que ces visions ? C'est exactement le contraire qui s'est passé avec Paul. Amen ? Loin de l'élever. Loin de se croire supérieur aux autres. C'est quelqu'un qui a réalisé son état réel devant Dieu de perdition, de méchanceté, de souillure et de condamnation. Loin de se justifier, il est tombé par terre dans la repentance et dans les larmes. Plus jamais il ne s'est glorifié de lui-même. Lui-même, il le disait, « Si je dois me glorifier, ce n'est pas de moi-même que je dois me glorifier. » C'est de Jésus-Christ. Et cette vision de lui-même, il l'a gardée tout le temps. D'un grand pécheur, du premier des pécheurs. Et c'est parce qu'il a réalisé cela qu'il a compris la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Il a vu que malgré tout cela, tout ce qu'il était, tout ce qu'il avait fait, Jésus se révèle encore à lui. Jésus se révèle encore à lui. C'est ce qui l'a brisé encore plus. Dans l'Épître aux Corinthiens, il dit, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce n'a pas été vaine envers moi. » Mes amis, quand on a une révélation de Jésus, du véritable Jésus de la parole de Dieu, il y a un changement radical qui se passe dans nos vies. Nous ne continuons pas dans le péché, ni dans l'idolâtrie, ni dans la souillure, ou quoi que ce soit, ou dans la rébellion, ou dans la religiosité. Quand il y a une véritable révélation de Jésus, on réalise qu'on est perdu. Même si vous avez la plus belle religion du monde. Quand j'entends des gens qui disent, mes parents ont telle religion, je vais mourir dans cette religion-là. Jésus n'est pas venu amener une religion sur la terre. Amen. Ah bon ? Première nouvelle. Non. Il y avait assez de religions déjà. Si une religion pouvait sauver, eh bien Jésus ne serait pas venu sur cette terre amener encore une autre religion. L'évangile n'est pas une religion. L'évangile est une vie. Amen. L'évangile, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. Aucune religion ne peut sauver quelqu'un. Même une religion soi-disant chrétienne ne sauvera personne. L'Église ne sauve pas. Il y en a qui pensent que c'est l'Église qui sauve. L'Église ne sauve personne. C'est Jésus-Christ qui sauve. Et quand on est sauvé, on va dans une Église fidèle à la parole de Dieu. Et non pas dans une Église idolâtre. Qui prêche des commandements humains et des traditions humaines que Jésus n'a jamais annoncées et que les apôtres n'ont jamais prêchées. Quand il y a une véritable révélation de Jésus, mes amis, alors nous tombons dans la poussière. Plus jamais nous nous glorifions de nous-mêmes. Plus jamais. Plus jamais. Première vision. Ah, mais celle-là, on ne l'aime pas. On a toujours la vision de ce qui ne va pas chez les autres. Vous avez vu certains chrétiens ? Ils ont des visions aussi, mais toujours de ce qui ne va pas chez les autres. Mais n'ont jamais la vision de ce qui ne va pas en eux. Avez-vous remarqué cela ? Ça encore, c'est des visions qui ont besoin de révision. Vous savez, c'est comme les voitures aussi, les voitures ont besoin de révision. Il y a des chrétiens qui, avec leur vision, ils ont besoin de révision. Parce que c'est des drôles de visions. Si dans tes visions, tu vois toujours ce qui ne va pas chez l'autre, mais en toi, tu vois tout, toi, tu es formidable, il n'y a rien. C'est qu'il y a quelque chose qui doit changer. Tu dois faire une bonne vidange. Une bonne vidange spirituelle. L'huile qui a noirci un petit peu, tu dois balancer tout cela. Tu dois être profondément purifié de cet esprit pharisien et réaliser qu'on est pécheur perdu. Le ciel s'ouvrira devant toi quand tu réaliseras que tu es pécheur perdu. C'est à ce moment-là que le ciel commencera à s'ouvrir au-dessus de toi. Mais tant que tu te prends pour un propre juste, meilleur que les autres, mais que finalement tu n'es pas si mal que ça, le ciel est fermé. Jésus-Christ est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Lui-même l'a dit, je ne suis pas venu appeler des justes à la repentance, mais des pécheurs. Des pécheurs. Si tu crois que tu es juste et que tout va très bien, Jésus ne peut rien faire pour toi. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Il voudrait, mais il ne peut pas. Il n'est pas venu pour les justes, pour ceux qui croient que tout est très bien. Si tu penses que tout va très bien et que ta religion te suffit, que tu seras sauvé comme ça, Jésus ne peut rien faire pour toi. Il ne te forcera pas à faire quoi que ce soit, à changer. Mais tu resteras la même personne et tu seras perdu. Mais lorsqu'on réalise son péché, quand on commence à pleurer sur son péché, qu'on dit « Oh Seigneur, je comprends qui je suis maintenant. J'ai toujours vu ce qui n'allait pas chez les autres. Mais aujourd'hui, tu me montres ce qui ne va pas en moi. » Un chrétien qui a eu justement cette révélation du Seigneur Jésus dans sa vie, il a dit ceci, « Je ne sais pas ce qu'il y a dans le cœur d'un voleur, mais moi je sais ce qu'il y a dans le cœur d'un chrétien, et ce n'est pas beau à voir. » Il avait compris quelque chose, vous êtes d'accord avec moi? Il avait compris quelque chose. Alors, le Jésus de ce chrétien-là, c'est l'authentique Jésus. Il est d'abord celui qui dévoile le péché. Le Saint-Esprit, le premier ministère du Saint-Esprit, c'est de nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Il vient nous dire, mon enfant, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Ne continue pas sur cette voie dangereuse. Tu es sur le chemin qui mène en enfer. Je t'en supplie, arrête-toi. Fais un demi-tour radical. Ne continue pas sur cette voie. L'ange est le chemin qui mène à la perdition. Mais arrête-toi. Arrête-toi. Détourne-toi de ton péché et viens me suivre. Viens, change. Change de vie. Voilà ce que le Seigneur veut te dire. Voilà ce que tu dois accepter cet après-midi. Seigneur, je suis perdu sans toi. Je ne mérite rien que la condamnation et la mort. Je ne mérite rien, Seigneur. Alors quand tu prieras pour obtenir grâce, il t'entendra. Amen.
Amen.
Mais alors attention, quand on réalise qu'on est pécheur et qu'on confesse son péché, il ne faut pas faire comme certains soi-disant chrétiens. Ils confessent tout le temps leur péché, mais ils ne l'abandonnent jamais. Et ils sont toujours là à vouloir confesser. On a l'impression qu'ils confessent même avec des larmes leur péché. Et quand vous les regardez, vous dites, oh là là, celui-là, il est vrai, ou celle-là, elle est vraiment touchée. Regarde, elle pleure et tout. Mais bien souvent, c'est des larmes de crocodile. Des larmes de crocodile. Ils confessent leur péché, mais ils prennent un soin, un immense soin, de ne pas l'abandonner. Oh, il ne faut surtout pas l'abandonner. Il faut confesser, mais pas abandonner. Mes amis, le péché qui est confessé et qui n'est pas abandonné n'est pas pardonné. Ça, c'est de la religiosité. C'est dans la religion qu'on dit tu confesses et Dieu te pardonne. Et puis à la semaine d'après, on recommence. Et ça peut durer toute une vie comme ça. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il y en a des millions qui sont pris dans ce piège-là. Le pardon des péchés n'est jamais accordé comme cela. Dieu n'est pas là pour justifier le péché et approuver le péché. Il est venu pour nous en libérer et nous donner une vie nouvelle. Si tu confesses, il faut aussi décider de l'abandonner, ton péché. Quel que soit ce péché, tu sais toi-même ce que tu fais de mal. Tu dois non seulement le dire, mais l'abandonner. Dire, Seigneur, j'abandonne le péché, le vol, l'adultère, l'idolâtrie, le mensonge, la haine, ma rébellion, je l'abandonne, je veux changer. Alors, le ciel s'ouvrira et la grâce de Dieu t'atteindra. Amen. Deuxième vision de Paul, c'était une vision de la croix. Paul a eu une vision de la croix. De la croix. Galates 2:20, qu'est-ce qu'il est dit ? J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Regardez maintenant une deuxième vision, la vision de la croix. Il réalise qu'il est perdu. Et c'est comme cela que nous pouvons le mieux, et c'est la seule façon de comprendre la croix, c'est de regarder la croix en se considérant comme un pécheur perdu. La croix n'est pas un ornement. La croix n'est pas quelque chose de sentimental. La croix est l'amour de Dieu manifesté pour des pécheurs rebelles. Et quand on regarde la croix en réalisant que nous sommes des pécheurs perdus, alors nous comprenons la croix. La croix prend un tout autre sens. Combien de gens ne comprennent pas ce que veut dire la croix? Ils parlent de la croix, mais ils sont toujours les mêmes. Ils ne changent pas. Et quand on dit qu'est-ce que ça veut dire la croix, ben, c'est Jésus qui est mort pour les péchés du monde. Pour les péchés du monde. Mais ils ne se sentent pas concernés. Ils ne disent pas Jésus est mort pour mes péchés. Christ est mort pour mes péchés. Christ a souffert pour mes péchés. Vous ne les entendez pas parler comme cela. C'est simplement des paroles vagues. Christ est mort pour tout le monde. En général, quelqu'un qui parle comme cela, c'est quelqu'un qui n'a pas compris la croix. C'est quelqu'un qui n'a pas eu la vision de la croix. Quand on a une véritable vision de la croix, alors on dit « Seigneur, merci parce que je méritais la condamnation et la mort. Mais tu as porté ma condamnation. » Le prophète Ésaïe nous dit, Ésaïe 53, Et cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Voilà la vision de la croix. Jésus, je mérite la mort. Mais je comprends, tu n'es pas mort pour tes péchés, car tu étais juste et saint. Tu es mort pour mes péchés. Alléluia. Christ a souffert pour nos péchés, lui leur juste, pour nous injuste. Voilà comment nous devons regarder la croix. Et voilà comment la croix nous libère. Ô Seigneur, ce n'est pas seulement les péchés du monde que tu as portés, c'est mon péché qui t'a crucifié. C'est mon péché qui t'a fait souffrir. C'est mon péché qui mérite la condamnation. Mais dans ton amour, tu es monté sur cette croix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde. C'est cela la croix. C'est le grand amour de Dieu qui a envoyé son Fils, le pur, le saint, l'innocent, qui est mort pour des coupables, des pécheurs. Nous méritions la condamnation, mais dans son amour, il a dit à son Père, « Père, c'est vrai, ils sont perdus, mais je ne veux pas qu'ils soient perdus. Je veux descendre. Je veux, moi le juste, mourir pour eux injustes. C'est vrai, tu es juste, Dieu, et ils méritent la condamnation. Mais si je porte cette condamnation sur moi-même, Père, alors tu pourras leur pardonner. Ta justice sera satisfaite si je meurs à leur place. » Et Dieu le Père a dit, « Va, d'accord, en mourant à leur place, toi le juste pour les injustes, toi l'innocent pour les coupables, je pardonnerai leurs péchés. » Alléluia. C'est pourquoi, lorsque nous regardons la croix, nous voyons l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui se manifeste pour nous pécheurs. Nous méritions la condamnation, mais Jésus a été condamné à notre place. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est dans ses meurtrissures que nous avons été guéris. Amen. Alléluia. Mes amis, lorsque nous serons au ciel, pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, il nous montrera là-haut les marques de ses mains, son côté de ses pieds, et il nous dira à chacun, « C'est pour toi que je fus crucifié, c'est parce que je t'aimais, je suis mort à ta place. Je ne voulais pas que tu ailles en enfer. Je voulais que tu sois avec moi dans ce ciel de gloire. Mais il a fallu que je souffre. Il a fallu que je donne ma vie. Dieu est saint. Il ne peut pas pardonner les péchés comme ça. Je vous pardonne. Dieu aurait pu nous pardonner comme ça si c'était ça. Du ciel, il aurait pu dire, bon, ben, vous êtes tous des pécheurs, je vous pardonne. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Le salaire du péché, c'est là. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais le salaire du péché, c'est la mort. Tout péché commis mérite un jugement, la mort et la condamnation. Ça, c'est la sainteté de Dieu. C'est la justice de Dieu qui réclame cela. Beaucoup de gens parlent trop de l'amour de Dieu, mais pas assez de sa justice et de sa sainteté. Il y a des gens qui parlent que de l'amour de Dieu. Dieu est amour, c'est vrai. Mais il n'est pas qu'amour, mes amis. Pour bien comprendre l'amour de Dieu, il faut comprendre la sainteté de Dieu et la justice de Dieu. Quand nous aurons compris combien Dieu est saint et juste, et qu'il fallait que Jésus meure à notre place, alors nous comprendrons combien son amour est grand. Sinon, nous ne comprenons pas l'amour de Dieu, nous en abusons. Au lieu de changer, nous continuons dans le péché. Quelle illusion! Quel aveuglement! Quand nous comprenons vraiment l'amour de Dieu, nous changeons. Amen. Amen. Nous changeons! Parce que nous avons compris que Dieu est saint et juste. Dieu est saint et juste. et que je méritais, moi, la condamnation et la mort, mais qu'il est mort à ma place. Quel amour! Quel amour! Et devant une telle révélation de l'amour, nous n'avons qu'un désir. Seigneur, pardonne-moi. Tu es mort pour mes péchés. Mais à partir de maintenant, moi, je veux mourir à mon péché. Je veux l'abandonner et changer de vie. Tu es mort pour moi. Désormais, je veux vivre pour toi. Gloire au Seigneur. Deuxième vision, la vision de la croix. N'est-ce pas merveilleux? C'est pourquoi partout où il allait, l'apôtre Paul disait, loin de moi, la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Loin de moi, disait-il, la pensée de me glorifier d'autre chose. Et pourtant, il pouvait se glorifier, l'apôtre, vous êtes d'accord avec moi? Il pouvait se glorifier de ses dons, il pouvait se glorifier de ce qu'il avait été au ciel, il pouvait se glorifier de ce qu'il a fondé des églises, fait des miracles extraordinaires. Il aurait pu se glorifier de tant de choses, d'avoir tous les dons spirituels. Quand nous lisons ses épîtres, il pouvait se glorifier d'avoir écrit plusieurs épîtres. Mais rien de tout ça, rien de tout ça. Il se glorifiait de la croix de Jésus, qui a révélé qui il était, perdu pour toujours. Mais que dans son amour, Jésus l'avait aimé. T'es mort à sa place et avait fait de lui un enfant de Dieu. Désormais, il ne voulait que vivre et mourir pour cela. Voilà pourquoi Paul pouvait être utilisé. Voilà pourquoi Dieu a vu dans le cœur de Paul cette pensée-là, cette compréhension-là et cette consécration-là. Il n'abusait pas de l'amour de Dieu, au contraire, il l'appréciait. Pour changer de vie et glorifier Dieu dans sa vie. Quand j'entends des chrétiens, entre guillemets, qui disent « Oh, mais Dieu est amour », et alors ils continuent dans leur péché, pensant qu'un jour, parce que Dieu est amour, il va fermer les yeux là-dessus. Non, mon ami, aucun péché n'entrera au ciel. Si tu ne confesses pas la croix et l'abandonnes, ce péché ne te conduira pas au ciel. Ce péché te conduira en enfer. Parce que tu ne peux pas entrer au ciel avec un péché qui n'est pas abandonné, purifié, si tu n'es pas venu au pied du Seigneur, dans la repentance. D'ailleurs, tu sais, au ciel, tu seras malheureux si tu n'es pas vraiment converti à Jésus-Christ. Tu dis, ah, mais je pense quand même aller au... Mais le ciel, pour toi, serait l'enfer. Quand tu vas aller là-bas, les péchés que tu as cachés, tu n'as pas voulu changer, tu n'es pas converti à rien du tout. Lorsque la lumière va se faire, comme avec l'apôtre Paul, comme ça, lorsque tu vas te présenter dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? La lumière va se faire. Tu vas te voir tout à coup, tel que tu es en réalité. Et le ciel pour toi deviendra l'enfer. Parce que tu n'es pas prêt. Tu n'as pas été préparé. Le ciel est un endroit préparé pour ceux qui se sont préparés. Tu ne pourras pas vivre dans ce ciel. Avec ton péché, ton égoïsme, ta rébellion. Tu vas dire, ah non, 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 je ne peux pas tenir ici. Quand tu ne tenais même pas dans la présence des chrétiens sur la terre, quelques jours ou quelques années, comment penses-tu, quelle prétention as-tu de rester une éternité avec les mêmes chrétiens dans le ciel? C'est une drôle de prétention. Tu ne tiendras pas. Et malheureusement, le seul endroit où tu seras à l'aise, et encore entre guillemets, c'est en enfer, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mes amis, voilà pourquoi dit Paul, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Parce qu'il savait la réalité de l'enfer. Il a dit, on l'a lu tout à l'heure, il faut que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Paul a réalisé les conséquences d'un refus de la grâce et de l'amour de Dieu. Une éternité en enfer. Aujourd'hui, beaucoup n'osent plus parler de l'enfer. C'est parce qu'ils n'ont pas une véritable vision de Jésus-Christ et de sa parole. Jésus a plus parlé de l'enfer que du ciel. Et il ne disait pas cela pour faire peur aux gens, il leur disait tout simplement que c'était la vérité. C'est la vérité, que nous y croyons ou pas, c'est la vérité. une troisième vision, une vision de lui-même, une vision de la croix et une vision du Christ ressuscité. Amen. Il a vu le Christ. En Épître aux Corinthiens, il est dit, il est apparu à moi-même comme à l'avorton. Et jamais il n'a oublié cette vision-là. Quand il a entendu ces paroles, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus que tu persécutes. » Alors il a vu que ce Jésus-là n'était pas resté sur la croix, mais qu'il était ressuscité. Il avait vaincu la mort, il avait vaincu l'enfer, et il avait vaincu le diable, il avait vaincu le péché, il était vivant au siècle des siècles. Alléluia ! Et la vision d'un Christ ressuscité a fait de lui un bouillant ambassadeur de Jésus-Christ. Si Christ est ressuscité, alors plus rien ne pourra l'arrêter. Alléluia ! Alors, les destinées du monde sont dans sa main. Alors, c'est lui qui est sur le trône de l'univers.
Amen. Alléluia.
Et que quelles que soient les apparences, c'est lui qui aura le dernier mot.
Amen.
Alléluia.
Amen.
C'est lui qui aura le dernier mot.
Amen.
On peut se moquer de Jésus maintenant. Si Jésus se tait, ce n'est pas parce qu'il est, il n'est pas vivant. S'il se tait, c'est par amour pour toi. C'est parce qu'il ne veut pas que tu sois perdu. C'est parce qu'il t'aime encore. Mais ne pense surtout pas parce que c'est parce qu'il est mort et puis qu'il n'est pas ressuscité. Non, 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 il vit au siècle des siècles. La vision du Christ ressuscité a complètement transformé Paul. Comment ? Ce Jésus qu'on a crucifié, il est vivant ! S'il est vivant, alors c'est lui qui est le Saint de Dieu, c'est lui qui est le Messie d'Israël, c'est lui qui est le Fils de Dieu, c'est à lui que je me donne maintenant, et c'est lui que je veux servir tous les jours de ma vie.
Amen.
La vision du Christ ressuscité, avec lui, va, je t'envoie vers les nations, personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Tant que je veux que tu restes sur cette terre, personne ne pourra te toucher. Vous êtes immortel tant que votre œuvre n'est pas achevée sur cette terre. Alléluia. La vision du Christ ressuscité. Il a les rênes du monde entre ses mains. Il a les rênes de ta vie entre ses mains. Remets-lui ta vie. Il est le vivant. Il a un plan pour toi. Fais-lui confiance. Il est vivant. Il est vivant, même s'il y a 2000 ans, il est mort pour nous, il est vivant, alléluia. Et comme les premiers disciples, il est ressuscité, il est réellement ressuscité, alléluia. Réellement ressuscité, réellement ressuscité. Quand les premiers disciples ont appris qu'il était ressuscité, ils étaient littéralement transformés. Comment ? Il n'est pas dans la tombe. La mort n'a pas pu le tenir. S'il a vaincu la mort, s'il a vaincu le tombeau, alors personne ne peut nous arrêter. Si tu suis le Christ ressuscité, personne ne peut t'arrêter. Le vivant est avec toi. Ne crains point. Ne crains point. Vis pour lui. Et s'il le fallait, mort pour lui. Mais sois fidèle jusqu'à la mort. Et tu recevras la couronne de la vie. Je termine, quatrième vision. La quatrième vision est une vision d'un amour ardent pour le Seigneur. Amen. Il y a maintenant la réponse. La vision de son propre cœur, la vision de la croix, la vision du ressuscité. Et maintenant, la vision d'un amour ardent pour le Seigneur. 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14, il est dit « L'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ me presse. » Et nous allons terminer par ce passage-là, 2 Corinthiens 5, 14. Voici ce qu'il dit, « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Alléluia. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voyez-vous, car l'amour de Christ nous presse. Maintenant, devant une telle révélation, il ne pouvait pas rester insensible. Amen. S'il est mort pour moi, alors je ne m'appartiens plus maintenant. Désormais, ma vie sera de vivre pour lui. Il est mort non seulement pour racheter, me racheter de mes péchés, mais pour transformer toute ma vie, pour que je lui remette les rênes de ma vie et de ma volonté, et que désormais il m'utilise pour sauver d'autres âmes. Amen. Voilà une véritable vision. La véritable vision du Seigneur, c'est quand nous avons été bénis, bouleversés nous-mêmes, et qu'ensuite nous allons vers les autres apporter cette révélation. Alléluia! Car l'amour de Christ nous presse. Nous ne pouvons ne pas dire ce que Dieu a fait pour nous. Voici ce que disaient les premiers apôtres. Nous ne pouvons nous taire. Nous ne pouvons nous taire. Désormais, l'amour de Dieu était dans leur cœur. Ils ont eu la révélation de l'amour de Dieu. Cet amour est venu dans leur cœur et personne ne pouvait les arrêter. Et ils ont été partout dans le monde et annoncé la glorieuse nouvelle. C'est à cause d'eux si nous pouvons maintenant entendre la bonne nouvelle. Amen. C'est à cause d'eux, de leur fidélité et de leur amour pour le Seigneur. Est-ce que Dieu peut compter sur toi pour que ce message maintenant soit transmis aux autres? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que tu as un amour ardent pour le Seigneur et pour les âmes? C'est là les quatre visions de Paul qu'il a eues du ressuscité. Cela l'a complètement transformé. Cela te transformera aussi. Si tu as cette véritable vision de Jésus, si tu l'acceptes dans ta vie, accepte-la et ta vie sera transformée dès maintenant et à jamais. Amen.
Jésus, qui est ton parent.